D'ailleurs, le CAC est une structure qui rassemble des militants associatifs de tous les domaines depuis 2010, c'est-à-dire précisément depuis une réaction assez épidermique du militant associatif à la circulaire Fillon à l'époque, qui marquait une avancée dans ce qu'on appelle la marchandisation du monde associatif, c'est-à-dire le fait de pousser les associations vers le marché, et puis d'amoindrir les différences qu'il y a entre les associations et les entreprises. Donc le CAC s'est créé, j'allais dire, en défense du monde associatif, citoyen, et en défense des libertés associatives. Et malheureusement, 11 ans plus tard, on y est encore, et j'ai peur que ça ne soit pas fini.
Ouais, alors ce qui nous intéresse, c'est aussi de faire le lien avec l'actualité politique et notamment la loi de séparatisme qui maintenant s'appelle la loi confortant les principes républicains. Mais avant même le projet de loi qui renforce encore le contrôle des associations, l'Observatoire des libertés associatives constate depuis quelques années des entraves aux actions associatives en France. Est-ce qu'on peut donner des exemples?
D'abord, peut-être préciser que cet Observatoire des libertés associatives, on l'a créé à quelques associations après avoir discuté de cette question avec Gabriel Attal, quand il n'était pas encore porte-parole du gouvernement, mais secrétaire d'État en charge de la vie associative. On avait été voir parce que justement, on sentait bien qu'il y avait un problème de plus en plus important. Et il nous avait dit, OK, je veux bien vous croire, mais démontrez-moi en quelque sorte le problème véritablement. De quoi s'agit-il? Et donc, on l'a pris au mot et avec quelques-uns, on a monté un observatoire des libertés associatives pour essayer de documenter des répressions, en fait, des entraves, des attaques, les mots sont plus ou moins forts, subies par les associations en raison de leur prise de position politique. Entre le moment où on a vu Gabriel Attal début 2018 et la première présentation du rapport, il y a eu 1 an et demi. Donc pendant 1 an et demi, on a été à la pêche aux informations et on a documenté 100 cas. On s'est arrêté là pour le rapport, mais ça continue, pour essayer de montrer qu'en fait c'était un problème systémique, c'est-à-dire que ça touchait tout type d'association partout en France. Tout le travail, ça a été d'établir des liens de causalité entre des prises de position politique et des entraves, alors qu'on a typologisé, elles sont plus ou moins importantes. Les moins graves, entre guillemets, c'est les entraves réputationnelles ou les mises au ban, etc. Donc là, à travers les 100 cas qu'on a documentés, il y a pas mal d'exemples d'associations qui soit sont écartées, par exemple de concertation avec des agences régionales de santé, parce qu'elles posent des questions gênantes, comme par exemple l'accès aux soins pour les personnes étrangères, ou des disqualifications. Par exemple, dans le rapport, il y a un cas d'une association environnementale à Osgore qui s'oppose à la mairie et la présidente qui se fait attaquer de manière extrêmement violente sur les réseaux sociaux, entre autres par le maire. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent avoir quand même des impacts forts hein, sur la vie de certaines personnes, mais on est au niveau d'entrave le moins grave. Après, il y a d'autres types d'attaques qui sont des entraves matérielles. Là, il y a des exemples célèbres, comme par exemple la privation de locaux. Je crois que c'était le Secours populaire à Hayange, donc une mairie FN. Et puis, évidemment, et malheureusement, c'est de plus en plus courant, des coupes de subventions ou sanctions. Un exemple qui me paraît assez emblématique au niveau national, c'est le Génépi, qui est une association très ancienne, puisqu'elle a été fondée à l'époque de Giscard, à la fin des années 70. C'est des étudiants, en fait, qui interviennent en milieu carcéral, qui intervenaient principalement pour donner des cours, en fait. Nicole Belloubet, qui était la ministre de la Justice, a clairement dit que cette association ne pouvait plus être subventionnée parce qu'elle était en désaccord avec la politique pénale du gouvernement et elle exprimait ce désaccord. Autrement dit, ce qui se joue là, c'est bien une conception du monde associatif comme simple exécutante en fait, de politique publique, ce qui en fait montre un problème de culture politique, je pense, de nos dirigeants, quoi. Et pour continuer sur ce type d'entrave, il y a un niveau encore supérieur d'entrave qui est les entraves judiciaires, c'est-à-dire comment est-ce qu'on utilise les outils juridiques pour mettre des bâtons dans les roues de militants associatifs. Donc alors là, des exemples multiples de dépôt de plainte, amende, procès, etc. Par exemple, dans le rapport, je me souviens qu'on parle de Greenpeace et d'un procès intenté à des militants qui s'étaient introduits dans une centrale nucléaire. Et ça c'est intéressant parce que c'est un exemple de procès bâillon, alors qu'on retrouve beaucoup dans des bras de fer entre des associations et des multinationales. Par exemple, Bolloré est un spécialiste des procès bâillons, c'est-à-dire que ça consiste à demander des sommes extravagantes à des associations et puis entamer une guerre juridique à coups d'avocats, etc. Et évidemment, c'est le pot de fer contre le pot de terre, quoi. Et puis, le dernier niveau, le plus grave, je trouve, d'entrave, c'est les entraves policières. Et là, malheureusement, on a de nombreux exemples, alors que ça soit à Calais ou à Briançon, sur des associations d'aide aux personnes migrantes. Et puis, bon, ben voilà, il y a des exemples aussi fameux, comme par exemple, on parlait du nucléaire. À Bure, il y a des entraves qui sont purement policières, à base de perquisitions, d'arrestations, de garde à vue, etc., etc.
Pour en revenir à la loi, mais avant quand même de parler des mesures concrètes qui concernent l'action associative, on peut déjà interroger le sens d'une telle volonté politique qui s'apparente à une mise sous tutelle des associations. Quelles raisons on peut invoquer le gouvernement pour renforcer l'encadrement du travail associatif?
Alors ça, c'est, je trouve que c'est la question de fond. Moi, j'ai l'impression que il y a, comment dirais-je, une crispation là, et donc cette dérive autoritaire, sécuritaire est le symptôme de cette crispation. En gros, on parlait de culture politique, on est en train de changer d'époque, et on a des gouvernants, en fait, qui ne supportent plus la contradiction. Et donc, qui ont du mal à concevoir le travail démocratique normal. Donc, c'est ça qu'on essaie de pointer sur ce rapport. Fondamentalement, je ne pense pas que le gouvernement soit contre le milieu associatif. Mais je pense qu'il voudrait un monde associatif qui se tient sage. Pour paraphraser le titre du film de David Dufresne, c'est-à-dire que tant qu'on est dans des associations gentilles qui réparent les dégâts les plus prégnants des politiques néolibérales, on va dire, ça va bien. Mais quand finalement les associations portent en germe des alternatives ou concrétisent des alternatives, inventent des choses qui ressembleraient à des éléments d'un nouveau système, là ça se corse. Et donc je pense que fondamentalement, on est sur un problème de conception du monde associatif qui est en fait, chez nos gouvernements actuels, et en contradiction même avec la loi de 1901, qui est de base une loi de confiance en fait entre les citoyens et les institutions publiques, et les autorités publiques, on peut même dire.
C'est ce qu'on est en train d'évoquer. Dans le monde associatif, il y a quand même deux dynamiques très opposées. Ici, la restriction des libertés associatives, et d'un autre côté, la place grandissante que prennent les associations dans la société civile, non pas uniquement parce qu'elles peuvent porter sur le devant de la scène politique ou leur action en faveur de la démocratie, mais aussi ne serait-ce qu'en termes d'emploi. Je crois que ça a doublé en 20 ans les emplois dans les associations. Voilà, il y a vraiment deux dynamiques qui sont opposées. Alors le collectif des associations citoyennes a publié un ouvrage collectif de chercheurs et d'acteurs et actrices du monde associatif qui s'intitule « Quel monde associatif demain ?». Alors au vu de ces deux dynamiques divergentes, comment répondre à la question que pose le livre ?
D'abord, je trouve que ce que tu pointes est vrai en France, mais pas seulement. Et le livre, on l'a co-écrit, co-dirigé avec Jean-Louis Laville, qui est un sociologue qui depuis longtemps travaille sur le monde associatif et l'économie solidaire, mais qui travaille cette question-là d'un point de vue international au sein du Collège d'études mondiales, et donc qui est très au fait de ce qui se passe en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, etc. Et ce qui est plutôt encourageant, c'est qu'en France, comme ailleurs dans le monde, effectivement, il y a une dynamique citoyenne d'organisation collective, d'auto-organisation collective qui ne se dément pas et qui se renforce même malgré des conditions de plus en plus défavorables. C'est vrai que c'est un paradoxe et c'est ce paradoxe qu'on a essayé d'explorer dans le livre. Alors, la méthode qu'on a adoptée est très simple en fait. On a deux parties principales dans le livre. On a imaginé ce que serait le scénario du pire, qu'on a appelé le scénario de l'affaiblissement, c'est-à-dire en gros, qu'est-ce qui se passerait si les politique autoritaire néolibérale s'intensifie encore. Voilà, il y a des chapitres qui essayent de préciser comment est-ce que les libertés associatives continueraient d'être restreintes, comment est-ce que la philanthropie continuerait d'apparaître comme la solution, comment est-ce que le managérialisme continuerait à contaminer le monde associatif, c'est-à-dire que finalement, on trouverait de moins en moins de différences dans le fonctionnement interne, y compris employeur-employé, entre des associations et des entreprises. Et puis aussi, il y a un chapitre intéressant qui pointe les conséquences de la réforme de l'administration sur le monde associatif, c'est-à-dire que la défense du monde associatif et la défense des services publics, c'est le même combat. Voilà. Et c'est ce qu'on essaie de pointer. En fait, ce qui est en jeu, c'est comment est-ce qu'on contre l'extension continue du domaine du marché, comment est-ce qu'on préserve l'action publique et l'action associative dans l'action publique. Et puis, donc, à contrario, on a essayé d'imaginer les composantes d'un scénario du renforcement. Donc, il y a un effet miroir. On essaye de voir comment est-ce que les associations, dans leur fonctionnement, peuvent inventer, en fait, des fonctionnements démocratiques qui contamineraient d'autres sphères. Il y a une phrase de Jaurès que j'aime bien qui disait il faut mettre la République dans l'atelier, donc dans ces ateliers modernes, dans ces laboratoires, en fait, que sont les associations. Ça serait quoi, en fait, mettre la République, c'est-à-dire comment est-ce qu'on invente la gestion de la chose commune? Et voilà, ça pose plein de questions qui sont passionnantes et qui sont à portée de main du monde associatif. C'est-à-dire qu'il y a des contraintes extérieures, mais il y a aussi des choses qu'on peut faire en interne. Et puis, il y a tout un chapitre sur qui scelle un autre financement du monde associatif est possible. Et ça me paraît important parce qu'à la faveur des enseignements macroéconomiques de la crise, on a quand même balancé des dogmes qui nous emprisonnaient complètement, les 3% de dette, etc., etc. Il faudrait voir comment est-ce qu'on peut imaginer financer un monde associatif qui aurait les moyens de ses ambitions, c'est-à-dire qui serait vraiment porteur d'un autre monde. Enfin, voilà, en gros, pour faire court.
Alors, est-ce que ce travail, enfin cet ouvrage, il est en lien avec le projet de loi? Ça me paraît court. J'imagine que ça avait été pensé avant. Et donc, pour l'instant, vu effectivement la dérive plutôt autoritaire et ce que propose cette loi, on est plutôt dans le premier scénario, plutôt catastrophe en fait. C'est plutôt celui-là vers lequel on a tendu.
Ouais, en fait, le livre a été fait avant en fait la conception du projet de loi, mais était déjà empreint de cette inquiétude qui s'est avérée exacte. C'est-à-dire que le livre a été fait là cet automne. Le rapport d'ailleurs de l'Observatoire des libertés associatives a été rendu le 6 octobre. Et au moment où on concevait ça, on n'imaginait pas vivre, j'allais dire, l'automne noir des libertés associatives, mais des libertés publiques de manière générale. C'est-à-dire que coup sur coup, on a eu quand même la loi sécurité globale. On a eu donc la fameuse loi qui s'est appelée séparatisme et qui maintenant s'appelle loi confortant le respect des principes de la République. On a eu des affaires aussi assez emblématiques sur la région Hauts-de-France. Il y a la boîte Sans Projet, qui est une association d'éducation populaire sur Amiens, qui s'est pris une inspection, sanction, on va dire, après une rencontre qu'ils ont organisée dans le cadre d'événements portés par la Fédération de descentes sociaux, où un dialogue avec la secrétaire d'État s'est instauré et s'est très mal passé. Et en fait, elle a été vexée et elle a diligenté un rapport dès qu'elle a rentré dans son ministère. Donc ça peut paraître anecdotique, mais en tout cas, on a tout un climat en fait répressif. Voilà. Et effectivement, le livre, en fait, je trouve, tombe à point nommé parce que volontairement, donc on a essayé de faire 8 chapitres du scénario positif contre 5 du scénario négatif, et on a quand même besoin de s'arrimer à quelques leviers d'espérance, on va dire.
L'une des mesures qui pose réellement problème dans la loi confortant les principes de la République, c'est même fatigant rien qu'à le dire, c'est le contrat d'engagement républicain. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut essayer de concrètement décrire ce que ça veut dire, ce contrat-là?
Alors, ça serait bien que tu poses la question au gouvernement, parce que justement, on ne sait pas ce que c'est. J'exagère, on ne sait pas bien ce que c'est, je m'explique. Donc, il y a la loi qui est en préparation actuellement, et le contrat d'engagement républicain, qui est en fait la pierre angulaire de la loi sur ses conséquences en direction du monde associatif, va être écrit par décret, c'est-à-dire après coup, probablement au mois de septembre. Donc, pour le moment, on n'a que des fuites, en fait, notamment ça. Le contenu a fuité dans l'Express, par exemple, voilà. Alors, le contrat d'engagement républicain, c'est un faux-nez autoritaire. C'est-à-dire que ça se présente comme un truc inoffensif. Il y a 10 mesures qui enfoncent des portes ouvertes. C'est-à-dire que, en gros, quand on signe ce contrat, on s'engage à promouvoir l'égalité homme-femme, on s'engage à pas avoir de pratiques discriminantes, etc., etc. Bon, que des choses que les associations font depuis très très longtemps. Sauf que le diable est dans les détails, et au détour du texte, il y a au moins 2 points clés, un surtout, qui est qu'on s'engage à respecter, à sauvegarder l'ordre public. Et tout le problème est là, dans cette notion d'ordre public, qui n'est pas une notion définie précisément juridiquement et qui va laisser en fait toute la place à l'arbitraire, qui est en fait ce qui va permettre de sanctionner concrètement les associations. C'est-à-dire que la question à laquelle ne répond pas pour le moment la loi et donc le décret, c'est qui va juger qu'une association respecte ou pas l'ordre public. Quand l'association Attaque, par exemple, va piquer des chaises dans une banque, la BNP Paribas, etc., est-ce qu'on considérera que c'est un trouble à l'ordre public ? Quand on démontrera à McDo demain, est-ce que c'est un trouble à l'ordre public ? Le problème, c'est le flou, et la loi, ce qu'on en connaît pour le moment, n'est pas rassurante, puisqu'elle parle d'agissements violents contre les biens et les personnes, et donc durcit complètement l'appréciation possible des actions associatives.
Alors on parle ici d'un contrat. Au CAC, vous étudiez aussi les relations justement entre les institutions et les associations, et donc in fine le rapport entre les élus et les citoyens, citoyennes. Les associations, elles sont déjà très largement soumises à l'administration qui délimite son autonomie. Elles subissent cette nouvelle loi qui cadre encore et peut-être restreint son champ d'action. L'État, lui, sur le coup, ne prend aucun engagement. On parle d'un contrat, mais un contrat unilatéral, est-ce que c'est un contrat ? Et au-delà, qu'est-ce qu'on peut penser de cette aggravation du déséquilibre ?
Un des éléments les plus graves de la loi, c'est de conditionner le soutien public à la signature d'un contrat, mais qui se fait avec le fusil sur la tempe. C'est-à-dire que, évidemment, on n'a pas le choix. Ce qui est d'autant plus dommageable, c'est que depuis 2014, il existe un outil qui est sous-utilisé, qui n'est pas un contrat, qui est une charte d'engagement en réciproque. Et là, tous les mots sont importants. Charte d'engagement en réciproque et qui est un outil de travail, co-construire des politiques entre associations, collectivités territoriales et États. Et donc, chacun prenait des engagements, y compris le monde associatif. Là, en fait, on va être obligé de signer un contrat qui n'a même pas été concerté avec le milieu associatif. Voilà, c'est une mise au pas manifeste, mais qui, malheureusement, là, s'établit au niveau national. Mais dans la région Hauts-de-France, vous avez déjà, avec la charte de la laïcité et des valeurs de la République de Xavier Bertrand, le même type de mise au pas depuis quelques temps. Nous, sur la région parisienne, il y a Valérie Pécresse qui a fait le même genre de choses, etc. Et le drame, en plus, c'est que là, ça infuse complètement. C'est-à-dire qu'avant même qu'il y ait un contrat d'engagement républicain écrit au niveau national, il y a déjà des chartes de la laïcité qui poussent partout en ce moment et qui sont en fait des sortes de déclinaisons du contrat d'engagement républicain avant même qu'il existe.
Alors aujourd'hui, quels peuvent être les moyens d'action à deux niveaux ? D'abord contre la loi, la mobilisation contre cette loi, et donc pour défendre les libertés associatives, mais aussi, on a parlé tout à l'heure d'utopie du monde associatif, hein, ce qui pourrait être s'il se développait, et donc pour le développement de l'autonomie des associations.
Contre la loi, c'est très difficile parce que on est sur deux registres en fait, d'action. On est sur un registre... Alors, on essaye de voir ce qui juridiquement est possible, c'est-à-dire qu'on prépare une saisine au Conseil constitutionnel, etc. Donc ça, c'est toute une partie d'action possible, mais un petit peu souterraine. Et parallèlement, on essaye de voir comment est-ce qu'on peut, alors d'abord informer, puisque le monde associatif est assez peu informé en fait de l'épée de Damoclès que représente cette loi. Et puis en plus, pour le moment, c'est une menace virtuelle. Tant qu'il n'y aura pas eu les premières sanctions, on ne se rendra pas vraiment compte, quoi. Et donc, on est en fait sur une campagne d'information, de sensibilisation. Alors, je pourrais faire passer peut-être les liens pour les mettre sur votre site, mais on vient par exemple de faire toute une série de vidéos avec la Fédération des arts de la rue qui présente par l'absurde et par la caricature le contenu. Par exemple, le fait que c'est absurde de demander de signer un contrat quand on n'a pas le choix. Voilà. Donc, on a essayé d'allier gravité de la situation avec décalage humoristique du message. Le but, c'est d'arriver quand même, là, dans les prochaines semaines, à mobiliser suffisamment pour faire du 1er juillet prochain, c'est-à-dire de la date symbolique du 120e anniversaire de la loi de 1901, un moment où on serait capable de faire passer le message de l'opposition du monde associatif uni à ce texte. Voilà. Donc, c'est compliqué parce que le monde associatif est extrêmement divers, mais quand on voit que déjà des grosses structures type France Générosité, des grosses structures comme ça, sont très clairement opposées au texte, il y a quand même espoir qu'on retrouve le front commun d'opposition du monde associatif qu'on avait déjà connu au moment de la suppression des emplois aidés.
Et au-delà de l'hétérogénéité du monde associatif, une des difficultés pour mobiliser les associations, c'est aussi qu'il y a quand même une forme de dépolitisation au sein des associations. Beaucoup d'assos se concentrent sur l'action sociale ou sur l'action économique. Je pense aussi au domaine de l'ESS, qui n'est pas forcément... ça induit pas que ce soit très politisé ou qu'il y ait une prise de position forte, en tout cas, là-dedans. L'autre difficulté, c'est que les associations dépendent des financements, et donc c'est toujours très, très difficile de mordre la main qui nous nourrit.
Là, tu mets le doigt sur le substrat, en fait, qui permet cette accélération de la restriction des libertés associatives, qui est la fragilisation du monde associatif depuis maintenant des décennies. Mais c'est quelque chose qui est non seulement connu, mais théorisé. Hein. C'est-à-dire que les inspirateurs théoriciens du néolibéralisme, type Friedman, Hayek, etc., l'ont vraiment théorisé, de la même manière que des gens comme Jean-Marc Borrello, qui est un conseiller d'Emmanuel Macron, qu'on nomme parfois le Bernard Tapie du social, pour vous dire un peu, voilà. Christophe Hittier, qui vient du Nord aussi, et qui ont très clairement dit que le monde associatif demain, ça serait des associations 10 fois moins nombreuses, mais 10 fois plus grosses. Et donc, on est sur cette rationalisation. En gros, des associations trop nombreuses et trop autonomes, ça fout la merde, en fait. Et ça ne permet pas d'imposer une politique qui est dictée par des impératifs de compétitivité, de concurrence de tous contre chacun, etc. Et donc, oui, en fait... les associations sont au fur et à mesure devenues exécutantes de politiques publiques décidées souvent sans elles. Donc à la faveur de la baisse des financements, mais aussi la transformation des financements, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de subventions et de plus en plus d'appels d'offres, donc de mise en concurrence des associations qui sont dans des logiques de survie. Et donc dans ce contexte-là, c'est compliqué d'imaginer le scénario du renforcement. Après, il y a quand même plein de motifs d'espoir. Nous, par exemple, on travaille sur une cartographie des alternatives portées par les associations. Ça s'appelle le Transiscope. Et donc, on voit que localement, il y a plein de choses. Et de la même manière, je pense qu'il faut considérer l'associationnisme, c'est-à-dire cet élan associatif au sens large. Et toutes les associations, y compris informelles, celles qui ne se déclarent pas, mais qui inventent plein de choses, et tous les collectifs, font énormément, et ça peut passer sous les radars, mais ça existe quand même. Voilà. Après, le tout, c'est d'être attentif à ces émergences aussi.
Très bien. Est-ce qu'on peut rappeler un agenda, peut-être, des mobilisations, des choses à venir dans le cadre de la contestation de cette loi, enfin, les informations pratiques? Où est-ce qu'on peut trouver, justement, des infos sur la loi, sur... des notes de synthèse, enfin tout ce genre de choses, des vidéos humoristiques, où est-ce qu'on trouve tout ça?
Alors, il y a un site de référence qui est celui de la coalition, LA pour Liberté Associative Coalition. En fait, c'est un regroupement de différentes associations, alors le CAC en fait partie, mais on trouve la CIMAD, on trouve Framasoft, on trouve la LDH, on trouve France Nature Environnement, il me semble que tu vas interviewer bientôt. Voilà, et donc on s'est tous regroupés ensemble sur ces questions-là, et là on trouve tout, y compris d'ailleurs le rapport de l'Observatoire que tu mentionnais tout à l'heure. Sur le site du CAC aussi, évidemment, association-citoyenne.net, on a centralisé plein de choses. Et puis sur les rendez-vous, ils sont en train de se construire. On peut aller sur le site de la coalition, à la fois pour se manifester via différentes signatures de pétitions, etc., et puis aussi pour avoir l'agenda des choses qui arrivent et donc qui, j'espère, vont aller crescendo jusqu'au 1er juillet prochain.
Très bien, merci Jean-Baptiste Jobard. Je rappelle donc que tu es coordinateur au CAC, le collectif des associations citoyennes, collectif qui vient de publier un bouquin qui s'intitule « Quel monde associatif demain ?» aux éditions
RS.
Voilà, merci beaucoup.